Bonjour, bonjour à tous. Mardi 4 décembre 2018. Il fait frais, il fait mordant même dehors. Comme et moi l'avons ressenti ce matin en arrivant au studio. Est-ce que vous êtes quand même réchauffé comme maintenant?
Oui, ça va maintenant qu'on est à l'intérieur.
C'est ça, dans la chaleur du studio. Nous sommes tous les deux, je suis Louis de Bernis, autour de la table pour cette émission des voix de service de ce mardi matin. Nous avons tout un tas d'articles, de sujets à traiter, à vous faire explorer. Quels sont-ils de votre côté, comme?
Il y a plusieurs choses, là c'est assez varié aujourd'hui. On va parler de la vie sexuelle des mouches un petit peu, parce que c'est toujours très intéressant.
Elles en ont une aussi.
On parlera vanille, on parlera berceau de l'humanité, on a plein de choses ce matin.
D'accord, varié, je n'ai pas entendu le mot espace encore.
Non, et pas aujourd'hui, je me suis retenu.
Pas d'espace aujourd'hui peut-être.
Pour la semaine prochaine.
Peut-être, oui c'est ça, pour cette fin d'année. De mon côté, bien, des insolites, il y en a comme d'habitude. On parlera d'un feu de forêt causé par un bébé, enfin si on veut, je vous expliquerai pourquoi. Également, je vous avais parlé il y a quelques semaines de deux affaires, l'une d'un copilote ivre, et eh bien on a eu le jugement.
Le pilote cette fois le pilote ivre.
Non là c'est le même copilote mais qui a eu son procès. Également, et eh bien de la loutre la semaine dernière qui dévorait des carpes. D'un certain prix, des carpes assez rares, je vous parlerai de cette loutre. Et puis également, pourquoi pas, la chanteuse virtuelle japonaise Hatsune Miku à la conquête de l'Europe. Ça y est, nous sommes dans le futur, ça se passe en ce moment. Et tout ça, vous allez le voir avec nous dans les voies de service dans quelques instants.
Très bien, eh bien partons vers l'Israël avec un parfum de vanille.
C'est pas le premier pays auquel on pense en pensant vanille.
Non, effectivement, et je vais vous expliquer pourquoi.
Vous me surprenez dès le début de l'émission.
Donc, trois jars de 3600 ans contenant des traces de vanille ont été retrouvées dans l'antique cité de Megiddo, en Israël. Une épice dont l'origine supposée était jusque-là située sur le continent américain, d'où elle se serait ensuite propagée. Donc cet ensemble de jarres déposées en offrande dans une tombe découverte sur le célèbre site de Megiddo, au-dessus de la plaine de Jezreel, l'ancienne plaine d'Esdraélon dans le nord d'Israël, vient de livrer un très ancien secret. En analysant les résidus de produits qu'elle contenait, les archéologues ont en effet eu la surprise d'y déceler des traces de vanille. Alors que les recherches établissaient jusqu'alors l'origine de cette épice au Mexique, nous ne nous attendions pas à une telle découverte au Levant il y a 3600 ans. Commente le directeur du site Israël Finkelstein, archéologue de l'université de Tel Aviv, joint par Science et Avenir. De quoi réécrire l'histoire de cette épice? C'est en 2016 que les archéologues israéliens avaient mis au jour cette importante sépulture d'une famille de haut rang dans l'extraordinaire cité de Megiddo, occupée depuis près de 7000 ans. Là où le livre de l'Apocalypse dans la Bible situe l'Armageddon, la bataille de la fin des temps, à l'intérieur d'une chambre funéraire voûtée datée à l'intérieur d'une chambre funéraire voûtée, datée de 1600 ans avant notre ère, 9 personnes étaient étendues, parmi lesquelles 3 individus entourés de parures précieuses, dont un torque en or, et cet ensemble de jarres. Ce sont des analyses réalisées par chromatographie et spectrométrie de masse sur ces poteries qui ont permis de déceler, outre des traces d'huile d'olive, la présence de vanilline et de 4 hydroxybenzaldéhydes, deux des principaux composants chimiques de la vanille. Ce qui remet donc en question l'histoire de cette plante dont les archéobotanistes situaient jusqu'alors l'origine dans les Amériques, les Espagnols étant considérés comme leurs importateurs dans l'Ancien Monde suite aux grandes découvertes du XVIe siècle. La vanille est en effet une gousse produite par une orchidée lianescente tropicale dont il existe une centaine d'espèces à travers le monde. Hors des Amériques, il est désormais vraisemblable que des gens aient su extraire ces substances aromatiques à partir d'autres espèces quelques siècles plus tôt. C'est ce que suggère Vanessa Linares, archéologue à l'université de Tel Aviv, qui a présenté son hypothèse lors de la réunion de l'American Schools of Oriental Research à Denver le 12 novembre 2018. Elle suggère que 3 espèces de vanille auraient pu être à l'origine de celles détectées à Megiddo, l'une provenant d'Afrique de l'Est, l'autre de l'Inde et la troisième d'Asie du Sud-Est. Selon la spécialiste, une variété de cette épice, ou encore des huiles parfumées à la vanilline, a pu atteindre Megiddo par l'intermédiaire de caravanes, des itinéraires commerciaux et des échanges à longue distance ayant existé bien des siècles avant que ne déferlent sur la région les Assyriens ou encore les Perses. Au Moyen-Orient, les habitants de l'âge du bronze ont eu beaucoup plus de contacts avec des destinations lointaines que l'on ne pensait jusque-là, affirme l'archéologue. Sans doute via la Mésopotamie. Une vanille très précieuse, comme en témoigne cette découverte dans une tombe de l'élite cananéenne où elle a pu être utilisée à des fins rituelles ou de conservation.
L'enquête progresse donc, mais on n'a pas encore totalement levé le mystère.
Nous ne savons pas encore, cela viendra.
Parlons à présent d'un feu. Ça se passe aux États-Unis. Et si on ne sait pas d'où vient la vanille encore exactement, ce feu-là, on sait d'où il est venu. Il est venu de manière assez stupide, il faut bien le dire. Je disais en introduction à cause d'un bébé. C'est pas exactement à cause d'un bébé, c'est à cause de la venue d'un bébé. Le responsable, lui, est bien adulte et bien inconscient, ma foi. C'est un garçon. Un futur papa a voulu faire original pour annoncer le sexe de son bébé à naître. Mais sa petite sauterie a tourné au cauchemar, il a déclenché par bêtise un incendie géant en Arizona. Les Américains appellent cela des « gender reveal parties », ces fêtes destinées à dévoiler le sexe de son futur enfant, partagées tous azimuts sur les réseaux sociaux, sont de plus populaires aux États-Unis. Les futurs parents se servent en général d'un gâteau au glaçage neutre, dont la coloration intérieure met fin à la découpe à l'intenable suspense. Bleu pour un garçon, rose pour une fille. Beaucoup trop convenu pour Denise Dickey, ce garde-frontière a préféré tirer sur une large cible, barrée par les mots « boy » et « girl », afin d'en dégager un nuage de poudre bleue. Petit problème, grand problème, selon les services forestiers américains qui viennent de diffuser une vidéo de l'événement, la cible artisanale contenait un produit de la marque Tannerite hautement explosif. Les herbes hautes et sèches du champ judicieusement choisi par le futur papa pour exécuter son numéro ont immédiatement pris feu. L'incendie, baptisé Sawmill Fire, a détruit en avril 2017 près de 2000 hectares de la Green Valley dans le sud de l'Arizona et n'a complètement été maîtrisé qu'après une semaine de lutte. Denise Dickey a été condamnée en septembre dernier à payer près de 8,2 millions de dollars de réparations ainsi qu'un 5 ans de mise à l'épreuve. Il se contentera probablement d'un gâteau la prochaine fois.
Il ne touchera plus une arme à feu.
J'espère aussi.
En pleine nuit, une sirène appelle au feu tous les pompiers. Et tout Rio qui se réveille voit brûler l'usine de café. Il n'y a pas de temps à perdre, sinon tout le quartier va brûler. Oui, mais voilà, pendant ce temps-là, à la caserne, on entend les pompiers crier. Qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux de lancer de la grande échelle? Qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux? La panique qui nous les faut. L'incendie là-bas fait rage et le ciel est noir de fumée. Et tous les gens dans les étages se disent mais que font les pompiers? Il n'y a plus de temps à perdre, sinon tout le quartier va brûler. Oui, mais voilà, pendant ce temps-là, à la caserne, on entend les pompiers crier. Qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux? Dénoncé de la grande échelle. On le devine, tout le quartier avait brûlé. Il ne restait plus que des ruines sur les centaines de mètres carrés. Quand tout à coup, dans le jour blême, on vit à courir un pompier. qui s'écria : je viens de la barre du capitaine, pour dire de ne pas vous énerver. On a retrouvé les tuyaux, j'ai lancé la grande échelle, mais on est en panne d'auto et on cherche la manivelle.
Quel dommage que Sacha Distel nous ait quittés il y a 14 ans, parce qu'avec l'incendie à Rio qui me donne envie de me trémousser, de danser, qui rentre littéralement comme un verre d'oreille en tête, j'aurais bien aimé entendre l'incendie à Somil en Arizona. Ça aurait sûrement été une très bonne chance.
Assez explosif, oui, au début. Merci Jean-Sébastien. Nous avons un nouveau compagnon parmi nous dans le studio. Bonjour Yves Olivier.
Bon matin à tous.
Vous allez bien?
Ça va très bien.
Excellent. Eh bien, nous vous lançons directement dans le grand bain de cette émission.
Dans l'arène.
Nous vous écoutons.
Parfait. Donc, je tiens à prévenir les auditeurs, hein, ça va être à saveur technologique aujourd'hui.
Hein. Très bien, très bien.
J'espère que vous allez pouvoir m'assister là-dedans, vous qui êtes plus jeune que moi. Puis Jean-Sébastien, vu qu'il travaille dans une console, d'après moi, il aime ça les gadgets. Oui, parfait. Bonne chance par contre pour trouver une transition musicale hein, par rapport au prochain sujet. Le premier étant en fait donc un assistant vocal. Mm-hmm. Savez-vous tout ce qu'un assistant vocal peut faire pour vous? Messieurs, en avez-vous des assistants vocaux?
Oui, mais je ne l'utilise pas personnellement.
Vous en avez
sur le téléphone, non?
C'est Siri, c'est ça?
Ouais, quelque chose comme ça.
Jamais?
Jamais.
D'accord. Et vous, Louis?
De temps à autre, quand mes pouces sont vraiment fatigués, mais sinon je tapote à l'écran.
D'accord, ok. Donc vous êtes des vieux de la vieille. Là.
C'est ça.
Je vais vous donner le goût, là. Ok. Gadget de l'heure, les haut-parleurs intelligents équipés d'un assistant vocal connaissent une popularité à la progression fulgurante au Canada. Selon la firme Strategy Analytics, on en comptera 1,7 million au pays d'ici la fin de l'année. Est-ce que la technologie en vaut l'investissement? Voici plus d'informations sur tout ce que ces appareils sophistiqués ont à offrir. Donc tout d'abord, c'est une question de choix. Il faut bien choisir son assistant vocal. Les assistants vocaux dominant le marché sont ceux développés par Amazon, Google, Apple et Microsoft. Bien que ceux-ci présentent des fonctionnalités similaires, chacun compte des forces distinctives qu'il faut considérer avant d'arrêter son choix. Tout d'abord, arrêtons-nous sur Echo, E-C-H-O, le haut-parleur intelligent d'Amazon. Il facilite les achats en ligne en accédant à l'historique d'achat. Il y a également Google Home, par Google, qui excelle à la recherche en ligne et peut se connecter aux applications d'un compte Gmail comme les courriels et le calendrier. On a également HomePod, si je vous dis HomePod, ça vous dit qui? Après iPod, iPhone, HomePod, ça serait deux.
Apple peut-être.
Exactement. Peut-être. Qui présente une qualité audio exceptionnelle pour la musique et le cinéma maison. Enfin, on a l'assistant Cortana de chez Microsoft qui jouit d'une grande popularité chez les jeunes amateurs de jeux vidéo, se trouvant à la fois sur Windows et Xbox One. Est-ce que j'ai des amateurs ici?
Non, plutôt du côté Sony personnellement.
Sony.
Toujours pas d'assistant.
Toujours rien. Parfait. Dans le doute, en tout cas, privilégiez l'assistant vocal appartenant aux mêmes écosystèmes que vos appareils existants afin d'éviter tout problème d'incompatibilité. Alors la technologie, elle ne date pas d'hier. PageJaune a été l'une des premières entreprises au Canada à explorer la recherche par assistance vocale. Dès le début des années 2000, la ligne téléphonique 310 Yellow permettait à un assistant virtuel d'identifier des commerces locaux en quelques secondes. L'idée, c'est de simplifier le quotidien. Selon le magazine Forbes, 72% des propriétaires de haut-parleurs intelligents ne savent pas se servir de toutes les fonctionnalités de leur appareil. Normal. À titre d'exemple, l'outil d'Amazon peut comprendre plus de 500 000 commandes distinctives. Voici quelques-unes des utilisations les plus courantes. La première, c'est la musique. Sous vos directives, l'assistant vocal peut faire jouer un album, une station de radio, les chansons les plus populaires d'un genre ou une décennie en particulier. Même le reggae des années 60, quoi. le hit numéro 1 d'une date précise ou la trame sonore d'un film. Il peut générer la lecture, vos listes d'écoute, ajuster le volume et même répondre à vos questions sur l'artiste. Je me demande si c'est pas ça que Jean-Sébastien utilise à la console. Donc, il fait juste taper dans un outil intelligent un mot-clé par rapport à un de nos sujets, puis la musique part. Non?
Vous êtes en train de révéler tous mes secrets. Là, okay,
bon, ben... Alors, ensuite, l'idée, c'est tout simplement d'essayer de connaître la météo. Ici, au Québec, on en a pas mal besoin. En plus des évidences comme quelle température fait-il et quelles sont les prévisions météo pour aujourd'hui, l'assistant vocal peut répondre à des questions plus nuancées comme « Aurais-je besoin d'un parapluie aujourd'hui ?» Il peut également vous renseigner sur les conditions météo d'une ville étrangère et sur l'heure du lever du soleil, pour les intéresser. Alors, l'idée, c'est de trouver la réponse à une question. Vous comprenez, hein, c'est ça. Donc, l'assistant vocal peut trouver la réponse à pratiquement n'importe quelle question au même titre qu'un moteur de recherche. Contre qui jouera votre équipe de hockey préférée ce soir? Combien y a-t-il de calories dans un hot dog? Comment se porte la bourse aujourd'hui? De quoi ont peur les pogonophobes? De quoi ont peur les pogonophobes?
C'est une excellente question, ça. Demandons donc à notre assistant. Okay.
Revenez-nous avec ça à la pause. Plus besoin de clavier pour en avoir le cœur net, donc il faut juste demander à un assistant vocal. Voilà. Il faut gérer également le calendrier, donc pour ça vous avez besoin d'un assistant vocal. En accédant à votre calendrier, un assistant vocal peut agir comme secrétaire personnel. En plus de lui confier la gestion de vos rendez-vous et de votre emploi du temps, vous pouvez lui demander de programmer des rappels récurrents ou non. C'est l'heure de se lever, d'aller chercher les enfants à la garderie, de vérifier la réception d'un courriel important, l'assistant y pensera pour vous. Et enfin, donc, magasiner en ligne, lié à votre profil d'achat Amazon, l'Echo peut commander de nouveaux produits en ligne ou encore répéter un achat de votre historique. L'assistant vocal peut vous renseigner sur les offres du jour, vous proposer des suggestions de cadeaux ou une occasion spéciale et suivre le repérage de vos colis. J'avais dit enfin, mais en fait, il reste plein d'autres options, comme contrôler la domotique. Ça vous dit rien, ça, hein ?
C'est les robots.
On va voir. En se connectant aux appareils intelligents un peu partout dans la maison, l'assistant vocal peut devenir votre centre de contrôle domotique, chauffage, climatisation, éclairage. Donc c'est un effet de centralisation de tous vos appareils. Les appareils électroniques, ouverture des volets, tout ça peut réagir au son de votre voix. L'idée aussi, c'est de trouver un commerce. Grâce à la géolocalisation et aux informations des annuaires, l'assistant vocal peut vous aider à trouver un commerce à proximité. Que vous ayez besoin de pizza, de pile de A ou d'un rendez-vous d'urgence en clinique, il vous guidera vers la bonne adresse et vous avisera même de l'heure de fermeture. Vous n'avez pas d'assistant personnel? Essayez les applis PJ. Afin que vous puissiez repérer un commerce de proximité ou un bon resto, les applications gratuites de Page Jaune vous offrent l'accès à 1,7 million d'entreprises locales, même sans assistance vocale. Leur interface intuitive rend les recherches simples et efficaces.
La pogonophobie, voilà, on va y arriver. C'est donc l'aversion pour les barbes et les poils en général, au menton et aux joues.
Ah d'accord, voilà. Ok. Bon bah merci beaucoup, Coma. Ouais,
plaisir.
Et oui, c'est une transition trouvée, effectivement. Alors, on n'écouterait pas ça pendant de longues minutes, les quelques secondes suffisent. Espérons que les assistants vocaux ne jouent pas ça comme musique quand ils s'ennuient. Koum, revenons avec vous.
Alors, on va essayer de faire un petit quiz. Nous cherchons, donc vous êtes tous les deux à participer, évidemment les auditeurs peuvent participer aussi de leur côté. Je vous demande un édifice qui se situe en Europe. Mmh. Allez, n'importe quoi, on y va. Une proposition.
La Tour Eiffel, très classique.
La Tour de Pise.
Eh ben, c'est gagné.
C'est laquelle?
C'est la Tour de Pise. Donc, je doute que quelqu'un ait été plus rapide, effectivement. Et oui, car en Italie, la Tour de Pise se redresse doucement. Est-ce que vous le saviez, ça?
Ah non. Alors,
on savait qu'elle penchait, effectivement.
On vous attendait pour cette nouvelle.
Donc elle est effectivement encore en train de se redresser, explique à l'AFP TV l'ingénieur Roberto Cella, en regardant la célèbre tour penchée briller sous le soleil d'hiver. Et il faudra encore de nombreuses années avant que cela s'arrête, assure-t-il. Symbole de la puissance de la République maritime de Pise au Moyen-Âge, le campanile médiéval de 55,86 mètres côté sud et 56,71 mètres côté nord, s'est mis à pencher rapidement après le début de sa construction en 1173. L'affaissement était dû à un sol trop meuble. Cette caractéristique, qui a fait sa renommée à travers le monde, a été jugée dangereuse. Les experts ont même craint pour sa survie et ont décidé il y a 30 ans d'engager un vaste chantier de consolidation. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, le monument de marbre a été fermé au public en janvier 90 et pendant 11 ans pour des raisons de sécurité.
son inclinaison atteignant au maximum 4,5 mètres par rapport à la verticale. À la suite des travaux, menés entre 1993 et 2001, sous le contrôle d'un comité international dirigé par l'ingénieur Michel Yamniolkowski, la tour avait récupéré 41 cm par rapport à la verticale. Et selon de récentes mesures, 4 cm se sont ajoutés depuis. Nous avons installé une série de tubes sous terre, du côté où la tour penche, explique Roberto Cella, qui dirige l'opéra Primaziale Pizzana, association en charge des principaux monuments de Pise. Nous avons enlevé la matière du sous-sol en forant avec beaucoup de soin, et grâce à ce système, nous avons récupéré un demi-degré de pente, précise-t-il. Pour comprendre le mouvement du monument de 14 500 tonnes, les experts effectuent des mesures toutes les heures, certaines avec des pendules automatiques, d'autres manuellement, à l'aide du niveau optique de géomètre. La tour a tendance à se déformer et à réduire sa pente en été, quand il fait chaud, parce qu'elle penche vers le sud, de sorte que sa face sud est chauffée et que la pierre se dilate. Et en se dilatant, elle se redresse, explique l'ingénieur Nunziate Squeglia, qui étudie et mesure la tour depuis 25 ans. La tour était beaucoup plus mystérieuse quand je suis arrivé. On ne savait pas vraiment pourquoi elle penchait et pourquoi le phénomène s'accentuait, souligne-t-il. Selon lui, la tour étudiée sous tous les angles depuis plus d'un siècle garde encore de nombreux mystères, comme les restes de ce qui ressemble à un toit en forme de dôme à l'intérieur de l'édifice. Sa fonction reste inexpliquée à ce jour. En dépit de toutes les campagnes de travaux, la tour ne sera jamais complètement droite, affirme son confrère Roberto Cella. Lors de sa construction, il y a eu des tentatives pour la redresser, en ajoutant de la pierre sur un côté, de sorte qu'elle a une légère forme de banane, révèle-t-il. Comme ils le font chaque jour, des milliers de visiteurs, ils ont été 3,2 millions en 2017 tout de même, Alvin, un touriste singapourien, prend des photos de ses amis en train de retenir la tour en arrière-plan. « Oh, je n'ai pas remarqué que sa pente avait diminué. Est-ce que c'est parce que tout le monde la pousse ?» plaisante-t-il avant d'assurer qu'il serait le premier à la pousser dans l'autre sens si elle se redressait un peu trop.
Eh oui, c'est presque une mauvaise nouvelle pour la ville de Pise et tous ses visiteurs.
Plus aucune particularité à cette tour après ça.
Peut-être qu'elle va aller pencher dans l'autre sens. Côté, effectivement. On verra.
Je sens la tour à condo. Hein.
C'est ça pour vous.
Porte cazzone con un stemma a rete, una cupulella che vi si era aizzata, passa scampaniando per tu l'ete, con mano a papà te fa guardare. Tuo fa l'americano, americano, americano, senta a me chi tu fa. Vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi siente disturbato. Tu abballo rock e roll, tu gioca a baseball, mei sorte beccamella, chi te li dà la borsetta di mamma tua fa l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, sienta a me non c'è sta niente fa, ok napolitan, tu vuoi fa l'american, tu vuoi fa l'american. Come ti può capire chi ti va bene, se tu la parla mezzo americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in capo di I love you. Tu fa l'americano, americano, americano, senta a me chi tu fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, o ti senti disturbato. Tu abballo rock and roll, tu gioca a baseball, me sorte beccamel, chi te li dà la borsetta di mamma tua fa l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, sienta a me non c'è sta niente fa, ok napolitan, tuo fa l'american, tuo fa l'american. Thank you.
americano, americano, americano. Ma si nati in Italy, sienta a me non c'è sta niente fa, ok napolitan, tuo fa l'american, tuo fa l'american.
Wish che so del rock and roll, wish che so del rock and roll, wish che so del rock and roll.
Probablement une des pièces les plus connues de Renato Carosone, c'était « Tuvo fa l'americano », un succès de 1956.
Et après l'Italie, passons effectivement à l'americano. Je vous emmène aux États-Unis, où on ne plaisante pas avec le ketchup. C'est une Californienne, estimant qu'on ne lui avait pas servi suffisamment, qui a frappé et tenté d'étrangler le pauvre gérant d'un McDonald's. La sauce est montée au nez de Mayra Berenice Gallo, après avoir passé commande au service au volant d'un McDonald's Santa Ana au sud de Los Angeles, c'était le 27 octobre, la femme de 24 ans est sortie furieuse de son véhicule. Elle s'est ruée dans le restaurant par l'entrée du personnel et a commencé à pousser et à étrangler le gérant qui lui faisait remarquer qu'elle n'avait rien à faire là. Elle était énervée de ne pas avoir eu assez de ketchup, a déclaré le porte-parole de la police de Santa Ana. L'incident, enregistré par une caméra de surveillance, a pris fin grâce à l'intervention d'un homme accompagnant Madame Gallo. Cette dernière a été arrêtée quelques jours plus tard, le mardi, et placée en détention pour agression. Le plus malheureux dans tout ça, on voit de plus en plus de choses de ce genre, a regretté le porte-parole de la police. Un homme qui voulait acheter un paquet de M&M's aux amandes a détruit un magasin 7-Eleven parce que sa carte de crédit ne passait pas. Voilà où nous en sommes aussi avec les technologies quand ça ne fonctionne pas.
Pour l'amour du ketchup, ça pourrait faire un beau titre de film.
Une romance. Reprenons avec cette seconde partie d'émission avec vous, Yves Olivier, directement. Nous vous écoutons.
Tout à fait, tout à fait. Donc revenons à des choses un peu plus sérieuses là. Après la vanille en Israël et le ketchup aux États-Unis, là, je pense qu'il est temps de revenir à des choses beaucoup plus élaborées, plus pointues, plus recherchées, comme des bébés, comme des bébés génétiquement édités.
D'accord.
Ouais, ça c'est sérieux là. On est dans du gros, la grosse science. Un chercheur chinois affirme avoir créé des bébés génétiquement édités, entre guillemets. Donc c'est un texte de Sébastien Seipt dans le France 24. Le chercheur chinois He Jiankui assure avoir mené une expérience ayant abouti aux premières naissances d'enfants génétiquement modifiés. L'affirmation non étayée par des preuves pose de graves questions éthiques. Être ou ne pas être génétiquement édité à la naissance, telle est la question que posent les travaux du chinois He Jiankui. Le chercheur a affirmé dimanche 25 novembre avoir mené une expérience ayant abouti à la naissance des premières jumelles génétiquement modifiées. Elles seraient immunisées contre le virus HIV à l'origine du sida. He Jiankui a expliqué à l'agence Associated Press avoir utilisé la technique d'édition génétique CRISPR, donc CRISPR. Vous connaissez ?
Oui.
Ah ok, donc vous ne connaissez aucun assistant vocal, mais vous connaissez CRISP, d'accord.
Bah, notamment les recherches du monsieur.
Ah oui, écoutez, comme, alors là, franchement, vous m'épatez. Hein. Et vous aussi, Louis ?
Non,
ah
moi,
d'accord, okay.
Je ne connais rien.
Pour enlever, bah, en fait, donc n'hésitez pas à intervenir, à critiquer.
Voilà. Mais en fait, ces recherches étaient menées dans le cadre du... Ils cherchaient effectivement un moyen, donc un moyen d'éradiquer le HIV, le virus. D'accord. Du HIV. Et c'est dans le cadre de ces recherches qui s'est permis justement de commencer des recherches sur le fait de modifier génétiquement des êtres humains.
D'accord.
Mais
ça permet en fait de donner une bonne raison à faire ça, quoi, parce que beaucoup de gens se demandent si c'est une bonne chose à faire. Mais pour cette raison-là, oui. Pour enlever aux embryons le gène responsable de la super susceptibilité au HIV, donc pour reprendre votre terme, Donc, c'est ce qu'il a précisé à France 24, à Christophe Galichet, chercheur au Francis Crick Institute, un centre de recherche qui travaille sur l'édition génétique. CRISPR, on dit-tu CRISPR ?
Je suis même pas sûr, alors ça.
Est une technologie de découpage génétique qui permet d'altérer un gène en ajoutant ou en enlevant les informations. L'annonce chinoise, qui est intervenue 2 jours avant l'ouverture mardi à Hong Kong de la 2e conférence internationale sur l'édition génétique, a suscité des réactions très vives au sein de la communauté scientifique. L'affirmation ne repose sur aucune preuve scientifique et le chercheur n'a produit aucun article permettant de vérifier ce qu'il a fait, souligne Christophe Galichet. Pour Pete Mills, directeur adjoint du Nuffield Council, un organisme britannique indépendant de bioéthique, cela ressemble surtout à une tentative cynique de faire la une des médias avant une conférence majeure sur la question. La prouesse scientifique, si elle est corroborée, n'impressionne pas non plus beaucoup Christophe Galichet. Son centre de recherche, le Francis Crick Institute, a déjà pratiqué de l'édition génétique sur des cultures d'embryons humains, mais uniquement à des fins de recherche. La seule différence serait que l'expérience du chercheur chinois aboutit à des naissances. Une nuance de taille, car elle est au cœur du débat éthique qui agite la communauté scientifique depuis des années au sujet de la manipulation des gènes humains grâce à des outils comme CRISPR. Dans la plupart des pays, y compris la France, ce type de recherche est interdit. Au Royaume-Uni, la Francis Crick Institute a été le premier laboratoire à obtenir en 2016 une licence pour conduire des expériences sur des embryons humains. Mais il nous est interdit de les cultiver plus de 2 semaines, précise Christophe Galichet. Les possibilités offertes par CRISP sont très alléchantes pour lutter contre des maladies génétiques, mais les conséquences sociales peuvent être graves. Toute mutation d'un gène est héréditaire, prévient le chercheur du Francis Crick Institute. CRISP ouvre ainsi la porte aux tentations eugénistes. La même technique qui permettait d'éliminer le risque de contracter certains cancers héréditaires pourrait aussi être utilisée pour éliminer potentiellement tout défaut du code génétique. En outre, il existe encore des incertitudes quant aux conséquences biologiques de l'édition génétique. CRISPR pourrait donner des mutations génétiques inattendues, note Christophe Galichet. Le coup de ciseau donné aux gènes responsables de la susceptibilité au virus HIV pourrait en théorie avoir entraîné une plus grande prédisposition à certains cancers. Il faut faire davantage de recherches pour mieux maîtriser cet aspect de l'édition génétique, estime le chercheur. La manipulation génétique des embryons grâce à CRISP présente aussi un risque spécifique mal maîtrisé que Christophe Galichet appelle l'effet mosaïque. Lorsqu'on altère un gène à un stade aussi peu avancé du développement humain, il se peut que la mutation par ricochet affecte davantage de gènes que celui en fait visé initialement. Difficile de dire si l'expérience de He Jiankui, dont la réalité reste encore à prouver, n'a pas déclenché des modifications en cascade dans le code génétique des jumelles dont les conséquences vont se révéler au fil du temps. Voilà.
Non me moleste mosquito, non me moleste mosquito, non me moleste mosquito, retourne chez toi. Je fais la sieste moustique, arrête un peu ta musique. Ne sois pas antipathique, ne me pique pas. Moustique mon vieux, tu vois trop petit. Tu as des ailes, va voir du pays. J'ai un patron plus large que moi. Vas-y de confiance, c'est moi qui t'envoie. Non me moleste mosquito. Non me moleste mosquito, non me moleste mosquito, retourne chez toi. Tu me vois mélancolique, de te troubler ton pique-nique. Si tu me goûtes moustique, tu n'aimeras pas. Il y a des pays pleins de volupté, pour un moustique de qualité, à Saint-Tropez, à Honolulu. Non
non me moleste mosquito, non me moleste mosquito, retourne chez toi. Je fais la sieste moustique, arrête un peu ta musique, ne sois pas antipathique, ne me pique pas.
Notre bien-aimé ami à elle, notre petit insecte qu'on aime tous avoir l'été, c'était le moustique chanté par Steffi Choc, bien sûr à l'origine par Joe Dassin.
Et pas question de moustique, mais pas si loin que ça en fait, comme vous allez nous parler des mouches.
Effectivement, des mouches et de leur vie sexuelle qui peut se rapprocher à celle des humains sur certains points. Pas tous, hein, je dois bien l'admettre. Des chercheurs du CNRS ont découvert que les drosophiles sont capables de transmettre leurs préférences sexuelles de manière culturelle, démontrant encore un peu plus que ce processus n'est pas le propre de l'humain. La culture n'est pas le propre de l'espèce humaine. Ce processus, qui se définit par le transfert d'une caractéristique qui peut être acquise socialement et diffusée aux autres de manière répétée, se retrouve chez les oiseaux, les primates et même chez les ongulés. En effet, une étude parue le 7 septembre 2018 dans la prestigieuse revue Science suggérait que la migration, c'est-à-dire savoir quand et où se déplacer chez ces animaux, est un savoir transmis de génération en génération, permettant ainsi le maintien des mouvements saisonniers des hardes. Le 30 novembre 2018, toujours dans la revue Science, ce sont cette fois des chercheurs français du Centre National de la Recherche Scientifique, le CNRS, et de l'Université de Toulouse 3, Paul Sabatier, accompagnés par les collaborateurs internationaux, qui démontrent une fois encore que la culture n'est pas l'apanage des humains. L'équipe a démontré, pour la première fois chez des insectes, une transmission culturelle. Et leur modèle est loin d'être exotique. Il s'agit de la drosophile, donc la mouche effectivement. Ces insectes sont connus pour leur capacité à apprendre à et imiter les préférences sexuelles de leurs congénères après avoir observé leurs accouplements, explique le CNRS dans un communiqué. Les scientifiques ont donc tenté de savoir s'il s'agissait là d'un processus culturel. Pour en avoir le cœur net, ils ont testé 5 critères permettant de définir si le comportement est transmis de génération en génération. Il doit être appris socialement, c'est-à-dire en observant des congénères. Il doit être enseigné par des individus plus âgés, être mémorisé sur le long terme, induire la copie d'une caractéristique de l'individu, et enfin être conformiste, c'est-à-dire que les spécimens apprennent le comportement le plus fréquent dans la population. Ils se conforment donc à la règle. Contre toute attente, l'équipe a mis en évidence que l'apprentissage des préférences sexuelles chez la drosophile remplit bien ces 5 critères, assure le CNRS. En observant des femelles drosophiles, les chercheurs se sont rendus compte que celles-ci choisissent leur partenaire sexuel en fonction des préférences des autres femelles. À travers une série d'expérimentations où une drosophile avait la possibilité d'observer d'autres femelles copulant avec différents partenaires, les scientifiques ont pu noter que les spectatrices ont tendance à apprendre quelles sont les préférences des autres et à les copier lorsqu'elles doivent choisir leur propre partenaire. Grâce à un modèle informatique basé sur les observations des chercheurs, ces derniers ont confirmé que ce type d'apprentissage social peut conduire à l'émergence de la tradition locale pendant des milliers de générations. Avec un modèle si connu et si répandu dans les laboratoires, les biologistes espèrent mettre au point la première boîte à outils expérimentale pour étudier l'existence de cultures animales. En outre, cette découverte valide encore un peu plus l'idée que le processus culturel n'est pas le propre de l'homme et n'est même pas celui des vertébrés. Cette étude suggère que l'éventail taxonomique de la culture peut être bien plus large que précédemment imaginé, notent les chercheurs dans l'étude. Selon ses auteurs, ce type d'apprentissage social a des implications évolutives considérables.
Et après un sujet comme celui-là, tout à fait nouveau et flyé, si j'ose dire, eh bien, nous avons aussi des sujets qui font un suivi sur des nouvelles que nous vous avons annoncées ces dernières semaines, parce que c'est aussi ça notre mission, c'est pas simplement vous donner des informations, mais aller au bout des choses. Je vous avais parlé il y a quelques semaines d'un copilote de la compagnie aérienne Japan Airlines qui avait un petit peu bu avant de prendre l'avion. Eh bien, quand on fait une faute, il y a des conséquences. On paye toujours et il va payer. Katsutoshi Jitsukawa, 42 ans, avait été arrêté le 28 octobre à l'aéroport londonien Heathrow après avoir échoué à un éthylotest effectué 50 minutes avant le décollage de son vol passager reliant la capitale britannique à Tokyo. Il présentait alors un taux de 93 mg d'alcool par 100 ml d'air expiré, plus de 10 fois la limite de 9 mg autorisée pour un pilote, contre 35 mg pour la limite légale au volant d'une voiture en Angleterre. Ce qui importe le plus, c'est la sécurité de toutes les personnes à bord de ce vol long courrier de potentiellement 12 heures ou plus. Leur sécurité a été mise en danger par votre ébriété, a reproché le juge Philip Matthews au tribunal d'Isleworth, qui a décrit le copilote comme très ivre. Les conséquences potentielles pour ceux qui se trouvaient à bord auraient pu être catastrophiques, a-t-il ajouté. Selon le procureur Douglas Adams, Katsutoshi Jitsukawa avait été sorti du cockpit par le service de sécurité après que ses collègues avaient signalé qu'il sentait fortement l'alcool. À l'arrivée de la police, il peinait même à se tenir debout. La compagnie Japan Airlines avait présenté des excuses pour le retard subi par le vol Londres-Tokyo en raison de cet incident. Ces excuses intervenaient après la révélation par une autre compagnie japonaise, All Nippon Airways, que la gueule de bois de l'un de ses pilotes qui avait provoqué des retards de plusieurs vols. Le ministère japonais des transports avait alors demandé aux compagnies aériennes d'appliquer de manière plus stricte la réglementation sur l'absorption de boissons alcoolisées. Et donc, ce que ce pilote va devoir faire, c'est tout simplement aller passer 10 mois en prison. Voilà pour la petite histoire. Quand on boit trop en avion, ça coûte cher rapidement.
C'est honnête.
Mon chasse-plage sur mon lit à bouffer sa langue en buvant trop mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vide, débris. Mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. Ouh, en quatre couleurs.
Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi. Poupée de cellophane, cheveux chinois. Un sparadrap, une gueule de bois. A bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc.
Comme un indien dans son igloo. Chaplain pour moi. Chaplain pour moi. Chaplain pour moi. Moi, 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 moi. Chaplain pour moi. Chaplain pour moi. Allez hop, la nana, quel panard, quelle vibration de s'envoyer sur le paillasson. Limé, ruiné, vidé, comblé. You are the king of the divan, qu'elle me dit en passant. Ooh, I am the king of the divan. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi, 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 ça plane pour moi. Ça plane pour moi.
La nana s'est tirée, s'est barrée, enfin s'est marre à tout casser. L'évier, le barbelé sans sel, comme un grand connard. Le pied dans le plat.
Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi, 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 ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi, 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 ça plane pour moi. Ça plane pour moi.
une des pièces bien connues de Plastic Bertrand qu'on vient d'entendre, mais qui n'était pas seul, qui était accompagné par la formation The Lost Fingers. Ça plane pour moi. Attention au micro, là.
Excusez-moi.
Il a trébuché sur le micro.
C'est en rapport avec la chanson, je commençais à planer. J'étais plus là, j'avais oublié où j'étais. Mais je m'en rappelle, en fait, on reste au Japon.
Ah.
On reste au Japon avec une autre personne de là-bas là, qui, elle, ne risque pas du tout de faire défaut à ses collègues de travail en tombant dans des bavures telles que l'alcool.
Mm-hmm.
Vous savez pourquoi ?
Non.
Parce qu'elle s'appelle Hatsune Miku. Ça vous dit toujours rien ?
Mm-hmm.
Non ? Elle s'en va conquérir l'Europe.
Ah,
ça
si,
vous dit
si.
Rien ?
Si, si, ça me dit quelque
ça
chose.
Ça vous dit quelque chose, oui, ouais, dans le domaine musical.
Mm-hmm.
Là, on brûle, on chauffe, non ?
Chanteuse virtuelle.
Exactement, on parle d'hologramme. Je vous l'avais dit, hein, aujourd'hui, ça allait être technologique de mon côté. Alors, des fans survoltés scandant le nom de leur idole sous le feu de laser, un concert parmi tant d'autres ? Non. Car l'ado qui se dandinait samedi soir sur scène près de Paris est un hologramme, celui de la japonaise Hatsune Miku, une chanteuse virtuelle partie prolongée en Europe, son succès bien réel. Bonsoir Paris. Je souris très heureuse d'être enfin avec vous. Avec sa voix de fillette au délicieux accent nippon, l'icône de la J-pop, Japan Pop, s'est lancée à la conquête du vieux continent après avoir rempli des salles en Amérique et en Asie. Longue chevelure bleue turquoise, jupe plissée très mini, bas remonté jusqu'à mi-cuisse, Hatsune Miku, qui a éternellement 16 ans, est à l'image de l'écolière japonaise férue de manga et de cosplay, art de se déguiser en son personnage préféré. Créature à cheval entre la poupée Barbie et un personnage d'animé, dessin animé japonais, Miku a été conçu en 2007 comme le porte-drapeau humanoïde d'un logiciel de synthèse vocale développé par le japonais Krypton Future Media sur la base de la technologie Yamaha, dite Vocaloid ou Vocaloid, contraction de vocal et android. J'ai l'impression d'être com, en fait, quand je parle comme ça. Le logiciel permet de développer sans connaissance musicale de véritables chansons, une technologie de pointe, d'où le nom de Hatsune Miku, qui signifie « premier son du futur » en japonais. C'est magique. Vu par plus de 63 millions de personnes sur YouTube, Miku compte 2,5 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Au Japon, elle est un tel phénomène que des milliers d'hommes l'ont virtuellement épousée. Alors là, rien ne va plus. Entre ça et les mouches, je ne sais pas qu'est-ce qui est... elle est apparue dans des publicités télé, notamment pour Toyota aux États-Unis. Elle a fait l'émission culte américaine The Late Show de David Letterman et chanté en première partie de Lady Gaga et Pharrell Williams. Son hologramme a rempli les salles de concert de l'Indonésie à la Chine, en passant par les États-Unis et le Mexique. Notre plus longue tournée en 2016 en Amérique du Nord a attiré plus de 36 000 personnes. Miku est aussi populaire en Chine, où des concerts sont organisés chaque année à un rythme similaire à celui du Japon, explique à l'AFP Guillaume Devigne, un Français qui dirige le marketing international de Krypton Future Media. La fréquentation en Europe sera comparable au supérieur, assure-t-il. Le responsable pourrait bien avoir raison à avoir l'hystérie des fans âgés de 10 ans à la vingtaine lors d'un concert près de Paris, avant Cologne mardi et Londres samedi prochain. Le spectacle parisien organisé dans le cadre de Japanism 2018, sorte d'année du Japon en France, avait quasiment rempli la salle de 5000 places. C'était inimaginable qu'elle vienne, s'enthousiasme Laura, 20 ans, qui se dit ultra fan depuis 10 ans. Je voulais aller au Japon la voir. Quand j'ai appris qu'elle venait, j'ai tout de suite acheté mon billet, explique l'étudiante, perruque turquoise et mini-jupe à l'image de son héroïne. Si Hatsune Miku suscite autant d'engouement, c'est que chacun peut l'approprier. Le logiciel est en effet sous licence Creative Commons, ce qui permet à tout fan de créer sa propre chanson et de la mettre dans la bouche de Hatsune Miku, faisant ainsi de la star sa créature. Une question, Gomme.
Mais je comprends pas, moi. Où est-ce qu'elle est en ce moment, en attendant, pendant ses concerts, cette personne ?
Pendant ses concerts, où est-ce qu'elle est ?
Oui.
Sur le scène. C'est ça, le principe d'un hologramme, c'est
une
image.
Mais donc, c'est pas une personne qui fait ses enregistrements, puis qui les diffuse en hologramme ?
Non, c'est ça, c'est le robot en soi, et en fait, on a une image, et elle bouge sur scène.
D'accord.
Voilà.
C'est particulier, non ?
C'est Hatsune Miku, d'accord. Particulier. Plus de 100 000 titres ont ainsi été écrits dans tous les genres, hissant Miku au rang d'œuvre collaborative. Tout le monde peut animer tout le monde peut aimer Miku parce qu'elle a tous les styles électro, pop, rock, explique Alicia Parizet, 18 ans en février et fan depuis l'âge de 7 ans. Elle me transporte. J'adore son rythme, dit la lycéenne, enveloppée dans un kimono de son idole Vocaloid. Le fait de pouvoir créer une chanson complète avec paroles et musique, avec ou sans connaissances techniques particulières, a incité des milliers d'individus, explique Monsieur Devigne. Le design et la promotion de Hatsune Miku étaient consciemment destinés à toucher un public plus large que celui des musiciens professionnels, et ce but a été atteint au-delà des espérances, se félicite-t-elle.
Merci Olivier, ça m'a mis la puce à l'oreille, j'étais très curieux de savoir ce que c'était que Hatsune Miku. C'est, je n'oserais même pas prononcer cette pièce car le titre est clairement en japonais, mais c'est une des pièces apparemment les plus connues sur internet de Hatsune Miku. On pouvait clairement entendre que c'était une voix robotisée qui chantait.
Oui, ou une jeune fille très très en forme, très énergisée, qui a bu beaucoup de café.
Ouais, du café.
Revenons un peu sur Terre, des choses plus calmes peut-être, Com.
Plus calmes, mais ben, on ne va pas revenir tant sur Terre que ça.
Dommage.
Parce que finalement, j'ai peut-être un tout petit truc dans l'espace quand même. Ce serait dommage de
C'est
de
une
louper.
Addiction, décidément.
Ce serait dommage de passer à côté. Combien vous seriez prêt à payer pour un caillou qui vient de l'espace.
Qui vient de l'espace. Qui brille ou...
Non, ouais. Il brille pas, c'est juste qui vient de la Lune, plus précisément.
Ah, de la Lune.
Ah voilà, là, c'est intéressant.
Ça a son intérêt, oui. Bon, allez, je mettrais un 1000 dollars si je les avais.
Oui, ben, 100 pièces si je les avais.
Ok, ben préparez-vous, parce que trois échantillons de roches lunaires prélevés lors d'une mission soviétique non habitée en 1970 ont été acquis en lot pour 855 000 dollars lors d'une vente organisée jeudi 29 novembre 2018 à New York. Ces fragments ramenés par la mission Luna 16 avaient initialement été offerts à l'épouse de Sergueï Korolev, considéré comme le père du programme spatial soviétique et décédé en 1966. Le prix final, qui inclut commission et frais, représente quasiment le double de celui atteint lors de la première vente de ces échantillons, c'est-à-dire 442 500 dollars. Il se situe au milieu de la fourchette d'estimation fournie par la maison d'enchères qui allait de 700 000 à 1 million de dollars. D'après cette dernière, l'échantillon proposé fin novembre est le seul parmi les fragments répertoriés prélevés sur la Lune, que ce soit par des missions américaines ou soviétiques qui ne soient pas la propriété du gouvernement.
Bon, il va falloir se cotiser, je crois.
Ouais,
alors, Yves Olivier,
ça va être,
on va mettre nos forces en commun. Eh bien, puisqu'on ne peut pas compter sur vous comme moi, je vais vous ramener un peu sur Terre à la fin de cette émission, sur le plancher des vaches, et vraiment le plancher des vaches, puisque je vous parle d'un jeune bœuf géant qui fait sensation sur Internet. Les réseaux sociaux se sont enflammés quand des photos du Holstein Friesen noir et blanc de 1m94 surplombant un troupeau de vaches brunes dans l'état d'Australie-Occidentale ont commencé à circuler en ligne. Son propriétaire, Geoff Pearson, a expliqué que Nickers, c'est son nom, était tout simplement trop lourd pour être envoyé à l'abattoir. La presse australienne affirme que Nickers est probablement le plus gros bœuf du pays. Il pèse, tenez-vous bien, 1,4 tonnes, tout simplement. Au lieu d'être transformé en viande hachée, la bête âgée de 7 ans finira ses jours dans les pâturages de M. Pearson à Lake Preston. Et pour ceux qui pourront aller voir ça sur Internet, les vidéos, les photos, c'est vraiment tout à fait impressionnant. Ouais. C'est un bœuf qui fait tout simplement deux fois la taille du troupeau qui l'entoure.
Ouais, quand j'ai vu la photo, j'avais l'impression de mes photos de classe quand j'étais jeune.
Avec celui dans la classe.
Non, c'est ça.
Vous avez envie de le rencontrer, vous vous identifiez à ce bœuf.
Exact. Ça peut permettre à survivre plus longtemps.
Et c'est la fin de cette émission, de ces voies de service. Merci à vous, Guillaume et Yves Olivier pour ces sujets variés en tout genre comme d'habitude. Merci également à Jean-Sébastien Laliberté pour la mise en onde, les choix musicaux, les découvertes de dernière minute avec cette chanteuse
Miku.
Je ne sais pas
Miku.
Comment la décrire, Miku, on va se contenter de Miku. C'est tout pour aujourd'hui, nous nous retrouvons la semaine prochaine, mardi prochain. D'ici là, eh bien, portez-vous bien. Bonne semaine.
Merci, bonne semaine.